En attendant mon heure, Navi à l'instant sur RKS.
RKS, S comme sport.
S comme sport.
S comme sport, c'est tous les mercredis soirs sur RKS. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on est encore une fois en direct, bien entendu. Cette fois-ci, on a encore une dame au micro. On a vu pas mal de choses. On a vu les centaures donc, de Grenoble. C'était le football US, le baseball, le freestyle vélo. Et aujourd'hui, ce sera du sport collectif aussi avec du basketball. Elle est originaire de Grenoble. Elle s'appelle Charline Fréminet. Salut.
Salut, bonsoir.
Ça va?
Oui, très bien.
Ah, ça me fait plaisir. Alors, on a une joueuse, ancienne joueuse professionnelle. Elle me l'a dit avant. Voilà, maintenant, c'est une autre division. C'est...
En National 2.
National 2, voilà. Mais on en parlera dans quelques minutes. On va faire d'abord les présentations. Donc, elle a 31 ans, c'est bien ça?
Oui.
Voilà. Alors, présente-toi rapidement, vas-y.
Ben, j'ai 31 ans, je suis maman de deux enfants. Et voilà, je joue au club de Tulin depuis cette année.
Depuis Tulin, alors ok. Alors, on va reprendre depuis le début, parce qu'en fait, t'es quand même connue dans le milieu du basket, même très connue dans la région grenobloise. On va parler depuis tout début, donc le basket, ça a commencé quand?
Ça a commencé dès le jour de ma naissance, le basket.
Ah, alors je suis sûr qu'il y a une anecdote croustillante là-dessus.
Oui, bah, le jour de ma naissance, j'ai eu ma première licence de basket.
Voilà. C'est légal tout ça c'est...
Ah non, pas trop, mais bon, voilà, j'étais, je pense, du coup, destinée à jouer au basket dans ma vie.
Ah ouais, mais alors ça s'est passé comment exactement?
La présidente du comité de l'Isère est venue voir ma maman à la maternité. Et elle est venue avec les documents de licence directement.
Alors, soit elle avait parié sur, sur toi, je ne sais pas. Mais alors, sinon, c'était une famille de basketteurs.
Oui, ouais, c'est pour ça. Elle savait où elle mettait les pieds. Hein, donc, famille de basketteurs. Mes grands-parents étaient basketteurs. Ma maman aussi. Et puis mon papa, qui lui était rugbyman, mais est devenu arbitre.
De basket, du
de
coup.
De basket, oui, ouais, c'est
en
ça.
En jouant au basket?
Pas du tout. Il n'a jamais joué au basket de sa vie. Mais il venait voir ma mère, tout simplement, jouer. Et ma mère en a eu un petit peu marre, qui crie après les arbitres constamment dans les tribunes. Du coup, elle lui a proposé de passer de l'autre côté, de venir sur le terrain, de prendre un sifflet et de se rendre compte des difficultés. Et c'est ce qu'il a fait. Puis, il a arbitré jusqu'en pro.
Ah ouais, donc belle carrière d'arbitre, alors, le papa.
Au final, ouais, il s'en est bien tiré. Ouais.
Trop bien. Alors, début des vrais pas en basket, c'est à partir de quel âge?
Alors, normalement, c'est en U7. Donc à partir de 5-6 ans, on peut commencer.
Quand tu dis normalement, c'est-à-dire que tu as commencé un peu avant?
Bah moi, j'ai commencé à 5 ans, ouais. Donc, ouais. C'est-à-dire que j'ai joué très 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 longtemps en catégorie. À l'époque, c'était poussine. J'ai dû y passer 4-5 ans, quelque chose comme ça.
Ah ouais?
Ouais, c'était affreux. J'arrêtais pas de demander quand est-ce que je vais passer en Benjamin.
Ah ouais, pourquoi? Parce que...
Parce que j'ai commencé très jeune, en fait.
Et du coup, le niveau est...
Et du coup, je pouvais pas être surclassée tout de suite. Il fallait quand même attendre un certain âge. Mais ça a été long pour moi.
Ah ouais, bah, j'en doute pas. Alors... Début, quand est-ce que tu as commencé à penser vivre du basket ou en tout cas à vouloir persévérer dans cette branche plutôt que peut-être l'école ou autre?
En fait, je pense que tout est venu très rapidement parce que j'ai eu la chance d'avoir des facilités. Je pense j'ai passé tellement de temps dans les salles de basket que du coup, quand on me demandait de faire quelque chose sur un terrain, je le reproduisais hyper facilement. Et c'est vrai que je mangeais basket, je dormais basket. Donc je pense que j'ai compris très rapidement que j'avais... quelque chose à faire avec ce sport, en tout cas.
Alors, c'est déjà bien d'avoir misé là-dessus, parce que c'est un sport qui n'est pas très... Enfin, il est connu en France, mais après, c'est quand même difficile, certainement, d'en vivre pour les formations, les entraînements. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Tu as commencé à quel âge, toi?
Alors, moi, je suis partie de chez mes parents à l'âge de 13 ans pour être au Pôle Espoir. Donc, j'étais sur Voiron pendant 2 années. Je rentrais uniquement le week-end. Et effectivement, c'est pas toujours très, très évident à cet âge-là. Le soir, de devoir se gérer seul, gérer son linge.
Ouais, c'est vrai, c'est voilà, fou à 13 ans.
Au quotidien, ouais, voilà.
Et surtout qu'il n'y avait pas de smartphone.
Non.
Ça, ouais, c'est je crois que c'est le plus dur.
Alors si, on c'était le tout début, donc ouais. On en avait.
Les D500 et 3310.
Voilà, mais c'était les MobiCartes.
Ah oui,
donc,
d'accord.
Avec les cartes à crédit. Donc s'il n'y avait plus de crédit le mardi, on attendait jusqu'au vendredi pour
ah
avoir.
Ah ouais,
voilà.
Et puis même, il n'y avait pas de photos, de vidéos, c'était quand même moins.
Ouais, tout ça, ouais. Donc bon, mais après, moi, je savais vraiment où je voulais aller. Dès que je suis rentrée au Pôle Espoir, de toute façon, j'avais comme ambition d'être la meilleure et j'ai toujours eu ce caractère très compétitrice, en fait.
On n'en doute pas, on reviendra là-dessus, il n'y a pas de souci. Justement, on va parler de ça parce que pour les jeunes filles, les jeunes garçons aussi qui nous écoutent et qui ils se disent « mais alors comment on fait pour devenir pro ou en tout cas commencer à partir de 13 ans ? On fait comment pour aller justement dans ce pôle Espoir ?»
Alors, il y a des sélections. Moi, en fait, tout a commencé par la sélection d'abord départementale. Et de là, après, ils repèrent les meilleurs joueurs et joueuses de la génération qu'ils envoient ensuite au pôle régional, en gros. Voilà, c'est ça. Donc, il faut passer par cette branche-là en règle générale. Après, on peut, des entraîneurs peuvent aller chercher des joueurs dans des clubs qui n'ont pas fait ce cursus de sélection.
Ouais. Ouais, faut que les parents soient d'accord, du coup, pour
complètement
abandonner leurs enfants à la.
Ouais, c'est ça. Et puis, je pense qu'il faut vraiment que les parents soient derrière leurs enfants, pas trop non plus. Parce qu'on connaît aussi les parents qui sont trop derrière.
Ah, même en sport-études, comme
Ah bah bien sûr. Bah, mes parents.
Ah, mais. Bah, dédicace, voilà.
Notamment mes parents qui, moi, m'ont toujours. Je les remercie maintenant, hein, mais ça n'a pas toujours été simple. Ils m'ont toujours poussé hein, pour y arriver.
Hein. D'accord, ouais. Ouais, parce qu'à 13 ans, en même temps, on est assez volatile. Même si toi, tu savais ce que tu voulais, ce qui est assez incroyable à 13 ans, parce que c'est quand même jeune. Mais bon, un grand merci aux parents. Alors, il faut être bien entouré si on veut se lancer là-dedans.
Complètement, il faut que les parents se soutiennent le projet à 100%. Ouais.
Parle-nous, alors ça a été très facile, tu l'as dit non, mais alors pourquoi ça a été difficile, à part le linge le soir?
Tout est difficile, parce que ça nous demande beaucoup de sacrifices. Alors, pas à l'âge de 13 ans, mais après, quand j'ai commencé à faire les équipes de France jeunes.
Alors, quelle est la suite? Alors, c'était quel âge?
Voilà. Quand j'avais 16 ans, quand j'étais en seconde. Quand je suis rentrée en seconde, je suis partie à Toulouse. Donc là, je ne rentrais pas les week-ends.
Loin de Grenoble, en
voilà.
Effet,
ouais. Et le problème, c'est que pendant toutes les vacances scolaires, j'étais en équipe de France cadette. Donc, on était en Allemagne, en Angleterre et un 25 décembre en République tchèque pour un stage.
Ah ouais.
Donc voilà, donc ça nécessite aussi d'avoir un fort caractère, un fort tempérament, parce que derrière, il faut faire énormément de sacrifices. La vie de famille, on l'oublie complètement.
Ah ouais, c'est fou ça.
Donc, il faut en être conscient quand même. Ouais.
Alors du coup, quand tu rentres, ça se passe comment? Parce que tu as le droit de manger ce que tu veux, c'est la fête
Pas du tout. Pas du tout, c'est l'angoisse justement. À Noël, tout le monde mange du foie gras et toi, tu fais beaucoup plus attention, t'en manges, mais avec beaucoup plus de modération parce qu'il ne faut pas prendre de poids. Le ski, impossible.
Oui, parce que si tu te blesses, non.
Voilà, le ski, la moto, tout sport qui pourrait à un moment donné déclencher une blessure est totalement interdit. Ouais.
Ah, parce que si tu te blesses, ça se passe comment? Ils ont le droit de te virer ou ils te disent, ils te gardent?
Non, alors si on se blesse, il y a toujours un gros staff médical. De toute façon, on est très très bien suivi à ce niveau-là. Mais effectivement, on risque de se faire sacrément taper sur les doigts si on s'est blessé parce qu'on a été faire du ski. Bon, après, on ne le dit pas. Hein. On dit qu'on est tombé dans les escaliers.
Ça sent le vécu déjà, voilà. J'ai envie de dire.
Exactement.
Oh purée, ouais, d'accord. Ouais, donc ça rigole pas du tout. T'as une petite anecdote en parlant justement de repas, de poids
Notamment après, ça c'était encore plus tard quand j'étais à Lyon, en Ligue féminine. On avait un entraîneur qui était un Américain, Pierre Bressan, qui lui nous pesait tous les lundis matins.
Voilà, c'était l'angoisse du
lundi. À l'entraînement, ouais. Donc tous les dimanches soirs, je rentrais manger chez mes parents, vu que Lyon-Grenoble, c'est pas loin. Mais je ne mangeais rien. Je rentrais pour manger avec
les
eux.
Les parents étaient contents.
voilà, ils en avaient un petit peu marre au bout d'un moment, mais j'étais obligée de faire hyper, hyper attention.
Ouais, pour remplir le tableau de semaine en semaine.
Voilà, c'est ça. Et puis pour pas, s'il y avait une prise de poids, toute l'équipe le voyait aussi. Donc,
Et en plus, voilà. Mais qu'est-ce qui se passait alors si tu prenais du poids?
Bah, il nous faisait gentiment la réflexion.
Ah, c'est... Voilà. Puis c'est bien, puis ça défie, ça devait bien passer.
Voilà, exactement. Et puis il n'était pas très très marrant, donc on n'avait pas forcément envie de se prendre de réflexion. Donc du coup, on faisait en sorte de ne pas prendre de poids. Ouais.
Oh purée, donc il menait à la baguette alors.
Ouais, non, exactement, exactement. Mais bon, après, je pense que c'est nécessaire à partir d'un certain niveau, de toute façon, de faire attention à son hygiène de vie. On ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi, donc ça va dans le sens du sport de haut niveau.
Voilà, c'était la petite anecdote donc, sur les repas, le poids. Donc on a dit 13 ans, Voiron, 16 ans, Toulouse, et après la transition
Après, j'ai été à Châles-les-Eaux pendant une année en deuxième division. Je suis
à quel âge c'était ça?
Donc ça, j'avais 17 ans.
17 ans.
Voilà, donc j'ai eu mon premier appartement.
À 17 ans, alors qu'il y en a qui ne savent pas lasser leurs chaussures, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Voilà. Donc ouais, il faut quand même un fort caractère pour être...
Alors, pour la petite info, j'avais pas un réel appartement. En fait, j'avais un placard.
Ah ouais.
Un couloir. Non, mais très sérieusement.
Ah mince.
C'était un local, à la base.
Mais tu es Harry Potter.
Voilà. C'était affreux. C'était affreux. Donc, du coup, c'était très compliqué à 17 ans, d'être un peu plus lucide, d'avoir un peu plus la tête sur les épaules et de penser au basket. J'ai pensé un peu plus à ma vie de jeune fille, à sortir avec les copains, les copines.
Ce que tu as fait ou pas?
Ce que j'ai totalement fait, ouais. Peut-être même trop, justement, cette année-là. Donc, ce qui m'a amené à revenir après vivre chez mes parents pendant un an.
Ouais.
Pour resserrer un petit peu les choses, qui était tout à fait nécessaire. Et puis, et après ça, je suis partie par contre à Montpellier, où là, j'ai commencé ma vraie carrière professionnelle.
Ah, quel âge donc?
Donc, j'avais 18 ans.
18 ans, tout s'est enchaîné, ça a été très, très vite.
Ah, ouais, je suis partie à Montpellier à 18 ans. À 20 ans, je suis partie à Strasbourg.
Yes.
Et à 22, je suis partie à Lyon. Et à 24, je revenais dans la région.
Alors, et une place dans les études, tout ça, ça s'est passé comment ?
Pas du tout. En tout cas, me concernant. Grosse erreur de ma part. J'ai pas eu cette capacité d'allier les deux. J'aurais pu, très honnêtement. Après, l'année de mon bac, en fait, j'ai eu une tumeur au foie au mois de juillet. Donc, du coup, j'avais passé mon bac au mois de septembre. Et j'ai clairement préféré privilégier ma remise en forme physique pour ma carrière pro que mes études. Et j'ai arrêté à ce moment-là.
Ah oui, incroyable. Alors là, vous êtes, si vous débarquez à l'instant, vous êtes sur RKS à Grenoble. On est en direct avec une joueuse de basket, Charline Fréminet, que vous devez connaître très certainement si vous êtes dans le milieu du sport. Elle est avec nous en entretien, comme ça, pour parler d'elle, de basket. C'est à peine le début. Et puisque c'est la tradition dans cette émission, ce sont les invités qui choisissent les musiques. Et là, c'est à Charline de balancer le prochain titre en mode radio. Donc tu dis l'auteur, tu dis le titre.
Ah non, mais je vais pas pouvoir l'auteur, mais c'est trop dur. Je te laisse dire l'auteur et je dis le titre.
Ah mais non, moi je peux pas, c'est anglais.
Ah bah.
Mais je vais tout casser.
C'est pas
donc,
grave.
Les oreilles vont saigner, attention. Et n'oublie pas de terminer sur RKS. Voilà.
D'accord.
Alors attention, c'est Earth, Wind and Fire.
September sur RKS.
C'est magnifique.
Chasing
C'est la playlist de Charline Fréminet que vous écoutez sur RKS. Vous êtes dans l'émission S comme sport.
RKS, S comme sport.
S comme sport.
Et si vous débarquez à l'instant, c'est une émission où on parle de sportifs, de l'agglomération grenobloise, parce qu'on est une radio grenobloise. On émet jusqu'à Vif, on émet jusqu'à Brigny, on émet jusqu'à Voreppe, Centrale. Tu vois, après, si tu vas trop loin, ben, ça grésille un peu. Mais bien sûr, vous nous écoutez aussi sur Internet et il y a des podcasts juste après l'émission. Voilà, on coupe, on monte l'émission et vous pouvez l'écouter, la partager. Faites-vous plaisir. On continue avec cette joueuse de basketball ancienne professionnelle, Charline Fréminet, donc, qui, juste avant de nous balancer un son avec le smile, elle nous, quand même, nous parlait de sa maladie, puisqu'elle a été sujette à la maladie, à la tumeur, c'est ça, du foie ?
Ouais, alors c'était pas une maladie à proprement parler, c'est simplement que j'ai eu une tumeur au foie, ouais.
Alors comment ça s'est passé ? Parce que tu étais professionnelle, tu es restée professionnelle après, contre-indication des docteurs, donc raconte-nous un peu cette histoire assez incroyable.
Bah, tout simplement, je suis allée dans une fête foraine à Montpellier avec des amis. J'ai fait un manège à sensation forte. Et en fait, la force centrifuge du manège m'a fait exploser la tumeur. J'avais des douleurs depuis une petite dizaine de jours, mais sans plus que ça. Enfin, ouais. Pas plus que ça. Et en sortant du manège, j'étais brassée, j'étais pas bien, mais jusque-là, rien d'alarmant.
Ah, le manège, c'est quoi ?
Voilà, c'est ça. Et puis, en fait, une heure après, on était en voiture. Et d'un coup, comme si on me plantait un couteau dans le ventre, je pouvais plus respirer, plus bouger. Douleur atroce.
Ah ouais.
Donc, on m'a conduit à la clinique. Et puis, et de là, des examens se sont enchaînés pendant à peu près 48 heures, où ils ne trouvaient pas du tout ce que j'avais. Au début, ils voyaient un hématome sur le foie. Donc, ils m'ont demandé si j'ai pris un coup. Je comprenais pas, bon, avoir pris un coup au point de me faire un hématome sur le foie, je m'en serais souvenu. Et puis bon, jusqu'à ce qu'ils découvrent que en fait j'avais une tumeur qui avait saigné, qui était du coup en plusieurs morceaux. Donc impossible de savoir si elle était cancéreuse ou pas. Et sachant qu'elle était en plusieurs morceaux, si elle était cancéreuse, bon, c'était un peu mal barré, quoi.
Ouais.
Voilà. Donc du coup, de là, ils m'ont opéré en urgence. Au départ, je devais être rapatriée sur Grenoble en hélicoptère, mais le risque était trop élevé.
Ah, c'est incroyable.
Voilà, pendant le vol, du coup, j'ai été opérée là-bas. Et au départ, ils devaient ouvrir de quelques centimètres juste pour aller chercher et gratter un petit peu.
Ouais, faire ça propre.
Voilà, finalement, j'ai une cicatrice de 25 centimètres. Ils m'ont coupé les abdos à droite pour pouvoir tout nettoyer, tout enlever.
Ils
m'ont enlevé une grosse partie du foie. Donc en fait, je me suis réveillée en réanimation alors que je devais me réveiller normalement, tout simplement, en salle de réveil avec une petite cicatrice.
Ah oui.
Et les choses, en fait, ne sont pas du tout passées comme prévu. Et du coup, quand mes parents sont arrivés à l'hôpital, parce qu'ils étaient à Deauville à ce moment-là, j'étais intubée, sous respirateur, les yeux scotchés. Enfin, bon, ils ont vraiment compris qu'il y avait quelque chose d'important qui était en train de se passer. Donc de là, j'ai été en réanimation. Je pense que j'ai été la pire patiente, d'ailleurs.
Allez, raconte.
Bon, les infirmières ne me supportaient plus. Parce que j'avais constamment cette sensation de ne pas arriver à respirer, de m'étouffer. Donc je les appelais constamment. Et à un moment donné, il y en a une qui m'a dit « Bon, maintenant, stop, quoi. »
Ah ouais, hein, purée, mais voilà. Bon, en même temps, respirer, c'est important, je crois.
Ouais, c'est ça. Et puis, je n'avais pas le droit de boire. Donc, ils me mettaient des compresses sur le bord des lèvres.
Mais non.
Juste pour m'humidifier les lèvres. Mais du coup, moi, j'essayais de sucer la compresse pour avoir quelques gouttes d'eau. Donc, je me faisais allumer aussi à chaque fois.
Ah, enfin, le calvaire, ma pauvre.
C'est ça. Et puis, j'étais tellement sous morphine que ça, je m'en souviens... Très rapidement, la dernière matinée, je leur ai fait tout le répertoire de Disney. J'ai chanté pendant 3 heures. Je les ai mais gonflés au possible. Donc, je pense qu'elles se souviennent encore de moi aujourd'hui.
Ouais. Bon, bah voilà.
Puis là, de là, les médecins m'avaient dit plus de sport à vie, terminé. Parce qu'il y a un gros risque d'éventration, parce qu'on a la cicatrice externe, on a aussi une cicatrice sur la membrane interne.
Mec.
Et donc, en cas de coup de coude ou quoi que ce soit, je pouvais faire une éventration, tout simplement. Donc là, c'est repasser sur le billard en urgence. Il y a un risque qui est quand même relativement important.
Ah oui.
Et donc, je me suis fait opérer le 1er juillet et aux alentours du 10 août, j'étais sur le terrain de basket. Mon premier footing, d'ailleurs, ça c'est la petite anecdote, mon premier footing que j'ai fait donc, avant de partir à Strasbourg pour mon nouveau contrat, j'étais sur la digue de Domaine et un couple de personnes âgées m'ont dépassé en marchant. Et j'ai dû faire un footing de 6 ou 7 minutes.
Ah ouais, ouais.
En fait, j'étais complètement courbée en deux, j'avais 10 kilos en moins... Donc non, c'était très compliqué, ouais.
En tout cas, t'es tenace. Je crois que c'est quelque chose que je peux dire. Ah oui, parce qu'un mois et même pas... Oui, mois, 10 jours.
Ah ouais, un mois et demi, ouais, c'est ça, à peu près, ouais.
Et
puis, mais bon, même ma sœur, quand elle m'a vu revenir, parce que j'étais hospitalisée après à domicile, elle a dit à mon père, non, mais faut la ramener, là.
Faut l'attacher, surtout au lit, qu'elle
bouge
pas.
Non, puis elle dit, c'est pas possible qu'il l'ait laissé sortir dans cet état-là, non, faut... J'étais, mais...
Ah oui, parce qu'en plus, t'avais des indications de ne pas sortir, surtout, et c'est toi qui es sortie, non
pour... j'ai demandé, en fait, à être transférée de Montpellier à Grenoble.
Ouais.
Sous prétexte d'être hospitalisée à Grenoble, sauf qu'en fait j'ai refusé d'être hospitalisée à Grenoble et que je suis rentrée à la maison du coup.
D'accord, ouais, mais t'es ingérable, je plains tes entraîneurs, tu vois, j'ai envie de te dire.
Complètement.
Ah, ouais. Ah donc c'est incroyable cette histoire. Et puis heureusement, donc, t'as quel âge à ce moment-là? C'est l'année du bac, tu disais?
Ouais, j'avais 19 ans à cette époque-là.
Donc 19 ans, donc ouais, à 19 ans, se prendre ça et se relever donc, en faisant du sport, finalement, le bac, comment ça s'est passé?
Bah, du coup, je vais passer mon bac au mois de septembre, parce que j'étais en équipe de France 20 ans et moins au mois de juin, pendant les épreuves du bac. Donc du coup, j'avais eu une dérogation pour le passer au mois de septembre. Et en fait, au mois d'août, j'avais deux options. C'était soit je me mettais au travail pour réviser mon bac et tout miser là-dessus, on va dire, pour après continuer mes études, soit je misais tout sur ma carrière pro. Donc j'ai eu une vraie discussion avec mes parents par rapport à ça, qui ont tellement eu peur de ce que j'avais eu que je pense que j'aurais pu leur demander Porsche qu'ils l'auraient acheté. Voilà.
Oui, c'est vrai. Oui.
J'ai peut-être joué un peu au niveau sentiment et du coup, je suis partie à Strasbourg.
D'accord.
J'ai laissé complètement tomber les études et j'ai privilégié vraiment ma vie professionnelle.
D'accord, parce qu'il faut quand même rassurer celles et ceux qui aimeraient se lancer dans, dans une carrière pro. On peut y arriver à concilier les deux. Il y en a qui arrivent ou pas?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai plein de copines qui sont encore pro actuellement et qui ont fait des masters, des licences.
D'accord, ça se fait.
Ça se fait, voilà. Il y a pas mal de structures qui permettent de faire des études à distance, donc c'est tout à fait possible. Après, il faut avoir quand même le mental pour. Voilà. Ouais, ça demande quand même beaucoup de travail personnel. Il faut être très sérieux pour ça.
Et c'est fou parce qu'on est quand même dans des sports, après je sais pas chez les filles comment ça se passe, mais vous n'êtes pas millionnaire comme des footballeurs ou des tennismans, alors vouloir persévérer là-dedans plutôt que d'aller un peu dans les études, c'est vrai que c'est un vrai choix, surtout à 19 ans, surtout après ce que tu as vécu, donc là aussi annoncer ça aux parents c'est pas facile quand même.
C'est un vrai choix d'autant plus qu'on, comme tu le dis, on en vit à peu près bien, mais après on n'a pas de quoi prévoir l'avenir. En plus, qu'on gagne au basket.
Parce que quand tu arrives en disant que je suis basketteuse à la banque, tu as dû faire rire des banquiers si tu voulais acheter, si tu voulais.
Exactement, on peut pas investir de toute façon. Les banquiers, parce qu'on a des contrats de 10 mois et l'été, on va chez notre copain Pôle emploi pendant 2 mois. Donc les banques ne veulent pas nous laisser emprunter. Donc moi, je sais que j'ai dû frouiller un peu pour avoir un crédit, un emprunt pour une voiture. Parce que les banques nous refusaient tout en fait.
Tu peux nous dire comment t'as fait ou on n'a pas le droit encore? Oui, il y a prescription, c'est comme tu veux. On cite rien du tout. Mais
On cite rien, il y a prescription, mais je me suis emparée d'un tampon au nom du club que j'ai gentiment tamponné puis signé sur un faux contrat pour obtenir un emprunt.
Voilà, faux usage de faux, Charline Fréminet. Donc il y a la police qui t'attend à la sortie du studio, n'hésite pas. Ah, mais c'est. Voilà, t'as su être futé tout le temps en tout cas. Hein. Quand tu veux quelque chose, tu l'as, là on le sait.
Voilà.
Alors. Après tout ce qui t'est arrivé, parce qu'elle a que 19, on en est qu'à 19 ans, elle a 31 ans, donc il y a encore du chemin dans l'émission à faire avec Charline Fréminet, cette joueuse de basketball que vous écoutez sur RKS, et c'est vraiment un plaisir d'être avec elle. C'est aussi une maman, elle nous l'a dit en début d'émission. Alors comment ça s'est passé, joueuse pro, grossesse et le sport après, retour au sport du coup, incroyable.
Ouais, c'est ça.
Comment c'est possible?
Il y a déjà la première grossesse où avec mon mari, on prévoit d'avoir un premier enfant, mais en se disant, bon, on se laisse. Le temps que les choses fonctionnent, on arrivera sur la fin de saison.
Oui, des fois, ça ne marche pas du premier coup, c'est pour ça. C'est pour
voilà,
ça,
et puis bah, nous, banco.
Ah mince, ouais,
voilà. Donc je me retrouve enceinte début novembre, la saison a commencé depuis 2 mois.
Bravo.
Et là, il faut l'annoncer au président, à l'entraîneur. Et là, je ne suis vraiment pas bien parce que je me dis que ça va vraiment pas leur plaire.
Ah, tu m'étonnes,
ouais. D'autant plus qu'à ce moment-là, je suis meilleure marqueuse de l'équipe, tout ça. Donc,
La syncope, les pauvres.
Voilà, donc ils ont besoin de moi. Et en fait, il faut savoir que l'été précédent, donc, c'est-à-dire 3 mois avant, j'avais bien profité. Puis j'étais revenue à la reprise avec peut-être 2-3 kilos de plus.
Ah.
Et quand je l'annonce à mon entraîneur, il me dit t'inquiète pas, je le savais de toute façon, t'es enceinte depuis cet été, non?
Ouh. Ah, donc en fait, c'est lui qui est.
Voilà, donc j'ai très mal vécu parce que pour lui, j'étais enceinte. Il pensait que j'étais déjà enceinte depuis la reprise au mois d'août.
Alors que la boulette.
Voilà.
Mais alors ça, c'est nous les hommes.
Ouais, mais c'est ça.
C'est normal.
Voilà. Il vous manque ce côté féminin et subtil.
Ah, mais carrément. Non, mais au moins, voilà, il s'y était fait à l'idée.
Voilà. Non, puis les choses sont très bien passées. Mais par contre, pour moi, du coup, du fait de tomber enceinte en milieu de saison, il était inconcevable d'abandonner mon équipe à ce moment-là. Donc j'ai dit, je jouerai jusqu'au maximum.
Attends, mais le maximum c'est quoi? Parce que là, il y en a qui vont faire des syncopes là aussi. Ils vont se dire, mais une femme enceinte qui fait du sport, c'est dangereux pour elle, pour le bébé?
C'est, oui.
Bon, peut-être, après, je sais pas.
Alors, ça peut ou ça ne peut pas l'être. Moi, j'ai quoi? Non, on va dire ce qui est, c'est dangereux. Après, moi, j'ai fait une échographie tout de suite pour être sûre que tout était bien accroché, que tout se passait bien. Et du coup, j'ai pris le choix de continuer. Donc, les filles de mon équipe étaient au courant, donc toute la semaine à l'entraînement. Elle ne me touchait plus, Voilà, je faisais ce que
pas
je voulais.
Pas de contact dans
ah
le...
Ah non, c'était affreux, les pauvres, elles avaient peur.
Purée, ah ouais, tu voilà. m'étonnes.
Et puis les week-ends, toutes les équipes adverses étaient au courant aussi. Donc,
dès petit que... milieu, le basket.
Bah, complètement, ouais. Ouais. Donc dès que je chutais, j'avais déjà tout le public qui s'arrêtait de respirer. Et puis c'était les filles adverses qui venaient me relever, quoi.
Incroyable, ah ouais.
Donc voilà, il y a eu ça. Et puis les arbitres aussi, du coup, j'avoue maintenant...
Attention, elle avoue, écoutez non. bien, c'est enregistré.
Non, mais j'avoue que j'en ai joué aussi avec l'arbitrage. Forcément, parce que... À un moment donné...
Quand elle veut quelque chose, on le sait maintenant.
Non, mais quitte à être grosse, autant que ça nous serve à quelque chose. Voilà. Quand même, un minimum, quoi.
Oh, purée.
Donc, c'est vrai qu'une fois, je suis allée voir, au tout début de ma grossesse, je suis allée voir un arbitre à la mi-temps, parce qu'en première mi-temps, je l'avais un petit peu crié dessus, je lui ai mal parlé. Puis j'ai vu qu'il m'avait un petit peu dans le collimateur.
Ah ouais, t'as dit hormone, non c'est
voilà,
ça.
Donc je suis allée le voir, en fait, en m'excusant, en lui disant que, bon, surtout ne dites rien à personne, mais... Personne dans mon équipe au courant, mais je suis enceinte.
Oh purée, c'est pas vrai.
Donc, c'est les hormones, j'ai un peu peur, vous comprenez, de prendre un coup. Et ben écoute, la deuxième mi-temps,
c'était
j'ai
royal.
J'ai été sifflée, mais comme jamais.
Tapis rouge pour
voilà,
toi, mais
c'est
après...
Ça. C'est ça. Et oh là j'avoue là. Que ça a été comme ça jusqu'à ce que je m'arrête. Donc, je me suis arrêtée de jouer à 4 mois et demi de grossesse. Ah parce qu'en fait, je rentrais plus dans aucun maillot de l'équipe.
Il y a une anecdote à propos des maillots que tu
bah,
peux nous
ouais,
raconter.
C'est ça. En fait, les maillots de basket, il faut savoir qu'ils vont du numéro... Bon, maintenant, ça va du numéro 1 au numéro 15, en règle générale. Et le numéro 1 est un taille XS et le numéro 15 est un taille XXL. Quoi.
Et pourquoi ça alors c'est la...
c'est, ça a toujours été comme ça, en fait. Les magasins de sport qui faisaient les jeux de maillots, quoi, et ça a toujours été comme ça. Donc, okay, en général, okay. les grandes ont toujours des numéros 13, 14, 15. Les ouais. petites ont les plus petits numéros. Quoi.
D'accord.
Et du coup, moi, j'ai commencé la saison, j'ai le numéro 5. C'est le numéro que j'aimais bien. Et à 4 mois et demi de grossesse, j'avais le numéro 15. En fait, chaque week-end, j'ai changé mon maillot avec une fille d'équipe ouais. jusqu'au dernier week-end où je ne rentrais absolument plus dans... Bah même dans le dernier maillot, en fait, j'ai regardé mon mari avant le match. Je lui ai dit, écoute, je pense que là, c'est vraiment le dernier.
Là, c'est
j'avais
vrai.
Vraiment le ventre arrondi. Et,
Donc, en fait, ce sont les maillots qui t'ont fait arrêter. Sinon, t'aurais continué au final.
Je me sentais totalement de continuer. Ah, ah ouais. Ouais, 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 ouais. D'autant plus que quand j'ai arrêté du coup le basket, 3 jours après, mon mari partait. Il était militaire. Il partait 4 mois en Centrafrique,
ah ouais, okay.
en OPEX. Donc, d'un coup d'un seul, je me suis retrouvée sans basket, sans mari, enceinte, toute seule.
Mais tu sais pas faire et sans rien faire, non, c'est ça
c'est ça, voilà, donc c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai continué d'aller quasiment à tous les entraînements, juste pour les voir et puis pour papoter un petit peu. Quoi.
Elle mange basket, elle respire basket, elle vit basket. Chaline Fréminet qu'on a à l'antenne d'RKS ce soir dans l'émission S comme sport. On est en direct, mais l'émission, vous pourrez encore l'écouter en podcast juste après quand elle sera terminée. On arrêtera dans une petite demi-heure, mais pour l'instant, on fait une pause musicale. Cette fois, c'est moi qui choisis la musique, mais ça a été approuvé par Chaline. C'est Still Loving You de The Scorpion qui était en concert à Musilac il y a pas longtemps. Moi, je les ai vus à Tours justement il y a 15 jours. Ils ont 70 ballets pour les plus vieux. Et ils sont encore en forme, les papis. Donc, respect total, Scorpion, tout de suite sur RKS.
It's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday.
try, baby, try to trust in my love again. I will be there, I will be there. Love, our love, shouldn't be thrown away. I will be there, I will be there.
Qu'est-ce que j'adore! Still Loving You avec The Scorpions à l'instant sur RKS.
RKS, S comme sport.
S comme sport.
Et on a toujours notre invitée du soir et ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir avec nous. Joueuse de basketball professionnelle, en tout cas, elle l'était, maintenant elle joue plus gentiment, on va dire. Charline Fréminet, toujours en forme?
Oui, toujours, ouais.
Alors ça me fait plaisir parce que quand on est avec des sportifs de l'agglomération grenobloise, qui rayonnait au niveau national ou international, comme on a eu ici, on parle de tout. C'est-à-dire qu'on parle de leur vie aussi sportive, mais pas que ce qui s'est passé avant, après, pendant. Et là, on était en pleine grossesse avec Charline avant de balancer la musique. Donc, elle a joué jusqu'à 4 mois. D'ailleurs, l'enfant va bien ?
Très, très bien.
Normal, c'est bon ?
Normal, oui, mais un peu hyperactive. Je pense que je l'ai trop secouée.
On ne sait pas voilà, pourquoi.
Mais ouais, ouais.
Avec quelqu'un de calme comme toi, voilà, je ne connais pas monsieur, mais...
Pareil.
Ah mince, ouais, mais d'accord. Donc ça reste normal,
voilà,
pour cet enfant.
Ouais, ouais, complètement.
Alors du coup, t'accouches. Donc c'est quand même... C'est pas rien pour une dame, moi je ne sais pas, mais je crois que c'est quand même... C'est traumatisant pour le ventre, les organes. T'es retournée sur terrain combien de temps après?
J'ai accouché le 2 août, j'ai repris les entraînements le 11 septembre. Donc, un peu moins d'un mois et demi.
Ah ouais? Alors, c'était docteur a dit oui ou c'est toi qui a dit oui? Parce qu'on sait que tu n'écoutes pas trop ce qu'ils disent de toute
non,
façon.
Non, j'ai pas pris de... Sur le moment, j'ai pas demandé l'avis au médecin.
Ah, donc comme ça, tu l'as pas,
voilà,
pas transgressé
c'est
en
ça,
fait.
Voilà, je l'ai demandé un petit peu plus tard. Je sais pas, peut-être 2 mois après.
Bien.
Ouais. Mais non, bah, je sais que c'était pas très très sérieux. Après,
ouais.
J'en avais envie. J'ai repris quand même de manière sérieuse, c'est-à-dire que je me suis d'abord préparée physiquement, j'ai fait pas mal de prépa physique et puis voilà. Bon, après c'était affreux hein, parce que j'avais 3 caravanes accrochées hein, donc, et 10 kilos en plus. Hein,
ah,
donc,
Seulement j'ai envie de dire, ou parce qu'il y en a qui font plus hein, quand même.
Oui,
hein,
oui mais... non, mais j'avais pris 15, mais il m'en restait 10 quand j'ai repris quoi.
D'accord.
Et donc les articulations, on va dire mon corps de sportive très tonique que j'avais avant. Il n'était plus là du tout.
Et c'est vrai que ça, du coup, comment tu as fait pour perdre ce poids? Ça peut intéresser aussi les filles, ça, mmh. Les questions. Hein.
Bah, on a eu tout simplement un préparateur physique qui s'appelait Lamar, qui était topissime. Et en fait, il nous a fait bosser toute l'année. À savoir qu'il nous a fait bosser de manière très intelligente. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas quand on va me mettre sur une piste d'athlétisme, on va me dire « tu dois courir jusqu'à tel plot ». Je ne supporte pas ça. Et du coup, mais c'est génétique, ma mère détestait ça aussi, donc c'est pas de ma faute, c'est de la sienne.
Voilà, d'accord,
voilà,
j'ai compris.
Ouais. Que les choses soient claires. Et lui, au contraire, nous faisait travailler en nous disant « tu vas au bout de toi-même ». Et ça, c'est vrai que c'est un concept dans la prépa physique que j'ai beaucoup apprécié. Et avec lui, j'ai perdu en courte saison, on va dire. Après, que les choses soient claires, une grossesse, comme on dit, hein, 9 mois pour prendre, 9 mois pour perdre.
Yes.
Il ne faut pas être trop pressé non plus.
Oui, voilà, c'est bien dit. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas se priver de nourriture.
Non.
Ou de... Voilà, c'est vrai.
Non, non, après, ce que notre corps a subi, et puis voilà, les choses doivent se remettre doucement. Hein.
Donc, tu es revenu au meilleur niveau.
Ouais, c'est vrai que tout de suite cette année-là, je suis revenu vraiment au meilleur niveau.
Et t'avais quel âge ?
J'avais, bonne question, je vais devoir calculer, 31, j'avais 26.
26 ans, d'accord. Ouais. Pour un premier bébé et donc pour un retour de grossesse. Incroyable.
Voilà, c'est ça, ouais. Bon, encore à 26 ans, je pense que c'est plus simple qu'à 35 justement.
Ah ouais, j'en doute pas, donc voilà. Ça, bah, tu nous le diras peut-être dans 4 ans. Mais alors, il y a eu un deuxième bébé ou pas ?
Ouais.
Ah mais raconte-nous, ouais, comment c'est passé ? T'as joué jusqu'à 6 mois, t'as voulu battre des records ou comment ?
Non, alors là j'ai eu de la chance, avant-dernier match de championnat, on joue à la Tronche Mélan à domicile et mon mari partait en mission au Mali quelques jours plus tard et puis là on avait gagné, on était très contentes, on voulait fêter la victoire et avant de sortir, on a fait un crochet par la maison et je me suis dit tiens je vais quand même faire un test de grossesse parce que si jamais c'est positif, je devais faire le test 4 ou 5 jours après normalement. Du coup, pour ne pas boire d'alcool, tout simplement.
Oui, c'est mieux pour les enfants, ce qui paraît.
Voilà, mais bon, j'étais censée ne pas le savoir encore. Donc, normalement, j'étais pas dans toute l'illégalité. Voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, j'ai fait ce test 5 ou 6 jours avant. Ouais, et puis, ce test s'est avéré positif. J'ai su que j'étais enceinte le samedi soir. Mon mari est parti au Mali le jeudi.
Pendant, c'est ça,
4 mois.
4 mois,
ouais. Ouais,
début
rebelote,
de grossesse.
Voilà.
Quoi qu'il a échappé au pire, j'ai envie de dire.
Il a bien géré son truc.
Il a bien géré son truc.
De grossesse, de départ en Afrique. Donc, ouais. Bien pour lui. Voilà.
La France l'a sauvé, on peut le dire.
Exactement.
Mais et toi, ça s'est passé comment alors ? Parce que du coup, bah, tu l'as fêté au jus d'orange.
Je l'ai fêté au jus d'orange. Du coup, je l'ai dit tout de suite à certaines filles de l'équipe.
Oui.
Voilà, parce que par excitation, je ne pouvais pas le garder pour moi. J'étais trop
contente. Je te crois. Et puis après aussi, pour les hormones, elle l'aurait remarqué. Hein,
oui, voilà, c'est ça. Non, puis le fait que je ne bois pas, j'aurais.
Oui, t'aurais attiré l'attention.
Ouais. Un peu l'attention, mais forcément. Je suis très festive en soirée.
Ah, ouais.
Et du coup, j'ai joué notre dernier match de championnat le week-end d'après et je l'ai annoncé au coach tout de suite à la fin du match. Je ne voulais pas lui annoncer avant pour ne pas l'inquiéter, en fait.
Ouais. Oui, j'en doute pas. Ouais.
Voilà.
Ah, mais c'est beau, ça.
Et alors... là, je m'étais dit, stop le basket, 2 enfants, mari militaire. Quoi, mon mari m'a dit stop aussi, un petit peu, chose que je comprends. Et puis, un mois après mon accouchement, il a vu que ça me manquait.
Que tu commences à faire rebondir tes enfants par terre. Donc
voilà,
il s'est dit, il y avait quelque chose
qui... Bah, quand il a vu qu'une semaine après mon accouchement, j'étais déjà au gymnase avec ma fille dans les bras pour venir supporter mon ancienne équipe. Et
ah ouais, une drogue.
Il a compris, voilà.
Ah,
donc
ouais.
Là, du coup, j'ai repris. Pareil, un mois et demi après mon deuxième accouchement aussi.
Bah c'est beau, c'est intelligent de sa part aussi, c'est ça, une vie de couple en même temps. Mais du coup, tu as eu 2 enfants, tu étais encore à haut niveau là, c'était comment ?
Oui, ouais, je joue encore en 3e division.
Incroyable, donc tu as repris combien de temps après l'accouchement
La deuxième, ouais. Un mois et demi après. Pareil.
Ah ouais, donc tradition.
Voilà, sauf que là, j'ai pas repris avec l'équipe de National 1, j'ai repris avec l'équipe 2.
D'accord.
Voilà, au départ, c'était le, on va dire, le contrat.
Mais j'en doute pas parce que 2 enfants, un mari à gérer, et puis, enfin, pas à gérer le mari, hein, je parle de la situation familiale, attention,
voilà,
je veux pas de problème, mais gérer les entraînements, c'est combien d'entraînements par semaine ? Ça, on n'en a pas parlé.
Ouais, alors c'est 4 entraînements par semaine, plus une séance vidéo, plus le match du week-end.
Attends, mais ça fait loin, 6-7 là de...
Bah, on est en tout, on va dire, entre 4 et 5 par semaine, quoi, 4 plus la séance vidéo, ça fait 5, et puis le week-end, on part jouer à Lille, à Dunkerque... À Cherbourg.
À côté, quoi. Incroyable.
Voilà, à Monaco. Donc, souvent, c'était des départs le vendredi soir et on rentrait le dimanche matin. Donc, quand on a des enfants... Alors, il faut savoir que quand je partais en déplacement, j'étais très contente. parce que c'était ce petit moment à moi.
Ouais,
où j'étais plus maman,
c'est ça,
j'étais
ouais.
plus femme entre guillemets, j'étais juste Charline la basketteuse qui s'éclate avec ses copines.
Voilà, mais je voilà. comprends tout à fait.
Et franchement, c'était le côté cool où pendant les 24 premières heures, c'était génial, je prenais du plaisir. J'avais même l'impression d'être un peu une ado,
ado
de 15
ouais,
ans à faire un peu la con dans le train avec les copines, dans le bus. Et puis finalement, bah, au bout de 24 heures, il suffisait que je croise un enfant. C'était terminé.
Ouais, ding, ding, ding.
Voilà, j'ai envie de voir les miennes et ça me manquait.
Voilà,
et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein,
ouais. ouais, mais je te crois, après, une fois qu'on les a, on a envie de les avoir près de nous.
Alors oui, voilà, c'est exactement ça. Après, on a envie aussi, je pense qu'il est très important en tant que femme de s'épanouir.
Autrement, oui.
Voilà, en tant que maman, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi une femme qui s'épanouit dans sa vie professionnelle, qui s'épanouit dans, au niveau social. Je pense que c'est des points à ne pas négliger, il faut arriver à trouver le bon équilibre.
Et ben c'est parfait parce qu'on va enchaîner justement sur la suite. On va parler de ta dernière saison de basket. Est-ce qu'on a le temps de mettre une petite chanson? Le problème c'est que non, parce que 19h42, à moins que j'ai une chanson rapide dans le... Non, j'en ai pas, j'ai que des grosses chansons de ouf. On va parler de ta dernière saison, on mettra de la musique après.
D'accord.
Dernière saison, parce que je suis pas du tout basket, hein, je l'avoue. Donc elle m'a tout expliqué. C'était en 2012 à Lyon. Dernière saison professionnelle, raconte-nous.
Ouais, ça c'est la dernière saison où j'étais professionnelle, c'est-à-dire que j'avais un contrat vraiment quoi, pro et j'avais un agent.
Voilà, incroyable ça.
Ouais, on avait des agents.
Mais ça quoi. Je savais pas, comment ça se passe? Alors c'est lui qui dit où tu signes, ce que tu fais?
En fin de saison, l'agent t'appelle et il te propose tout un panel de clubs qui est soit susceptible de vouloir te faire signer, soit qui ont des clubs qui ont déjà contacté l'agent.
Mais c'est lui qui a bossé, voilà.
Voilà,
qui...
en disant je veux cette chose. En fait, en fin d'année, les différents clubs, les entraîneurs appellent les agents en leur demandant bon bah t'as quelle joueuse sur le marché, quelle joueuse part. Et donc les choses se font comme ça en fait, tout simplement.
Trop bien ça. Et lui,
donc,
prend
lui,
un billet sur toutes ses affaires quoi.
Ouais, lui en fait il gère absolument tout. Au moment de la signature du contrat, donc il prend un 11e mois, donc il prend un mois de salaire juste pour lui. Mm-hmm. Et après, il gère pendant la saison. Donc, en règle générale, nous, les joueuses françaises, on gère en direct avec les clubs, c'est-à-dire que la chaudière tombe en panne de l'appartement ou... bref, un truc de... comment dire?
De la quotidien,
ouais. Ouais, ou du contrat qui n'est pas forcément bien respecté, on le gère en direct. Par contre, les étrangères, elles, par exemple, souvent ne passent absolument pas du tout par les dirigeants. Elles appellent leur agent, qui l'agent va appeler le dirigeant.
D'accord.
Ouais. Alors qu'elles peuvent le croiser, le dirigeant, 10 fois dans la même journée. Hein, mais elles ne lui diront pas. Voilà,
des
donc l'agent sert un peu à ça.
Des sports pro, des fois.
Ouais, hein. Voilà, ouais, c'est vrai, il y a des caprices, hein, ça c'est sûr.
Ah oui, bah on peut en parler, il y a vraiment des caprices, même j'allais dire à ce niveau-là, mais c'est le haut niveau, mais je veux dire à ce niveau-là financier, parce que quand il y en a qui font les divas avec des millions dans d'autres sports, c'est pas compréhensible, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, elles ont les moyens de pleurnicher. Et dans des niveaux où il y a un peu moins d'argent, justement, là aussi, il y a du caprice de diva.
Ah, moi, j'ai déjà vu des joueuses être exécrables avec le kiné ou le doc parce qu'il ne réagit pas assez vite. Ou,
Ouais,
complètement. Donc non, il y a quand même des comportements. Après, il faut savoir que quand on est dans un milieu pro, basket ou autre, après, je pense que je peux me permettre de parler au nom aussi des autres sports, on est clairement dans une bulle. Et on est connu et reconnu dans notre sport. Et honnêtement, je pense qu'on n'a pas du tout les pieds sur terre à ce moment-là.
Ouais, d'accord. Ouais.
Très honnêtement, je pense qu'on ne s'en rend pas compte sur le moment. On s'en rend compte avec le recul après, avec les années. Mais sur le moment, on croit vraiment être au-dessus un peu de pas mal de choses. Et c'est là où on se plante.
Ouais, parce que tu es dans un petit milieu et que, vu que voilà, tu fréquentes que ce milieu, forcément, ouais.
Et
oui, je comprends.
Et c'est très compliqué parce que quand on est dans le milieu pro, quoi, moi, ça m'est arrivé de signer un autographe en allant acheter mon pain. Par
trop
exemple,
drôle,
quand j'étais à Lyon.
Ouais.
Une fois, un supporter très, très engagé m'a suivi jusqu'à chez moi. Puis il me l'a dit de manière très naturelle le lendemain. Bah, je t'ai attendu, mais t'as pas sorti ton chien. Comment ça se fait? J'ai dit, mais comment ça va? Il m'a
fallait lui dire, j'ai un mari militaire et armé.
Alors, à ce moment-là, non, j'étais encore célibataire, malheureusement.
Ah, ben,
voilà, mais bon, donc on est vraiment connu et reconnu. Et moi, il faut savoir que quand j'ai quitté ce milieu pro, donc j'ai pris mon travail actuel donc, à la mairie de Mélan, d'un coup, d'un seul, on n'est plus personne.
Oui.
Et à l'entretien d'embauche, quand l'employeur nous demande tout simplement, quoi, m'a demandé, alors qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie jusqu'à maintenant?
Tu veux que je commence par où?
Non, j'étais basketteuse professionnelle. Non, mais sinon, vous avez eu un vrai métier?
Ouais, ça, j'en doute pas. Ouais.
Et on n'est plus personne, on doit tout reprouver. Donc, c'est toujours très compliqué.
Bah après, en arrivant justement du milieu professionnel, basket qui plus est, ça veut dire qu'il y a plein de qualités. que tu as forcément, comme la ténacité, comme le sérieux, comme l'engagement. Donc ça, après, pour les employeurs, je pense que c'est aussi un gage de... Enfin, ceux qui sont un peu futés, ils peuvent se dire que c'est clairement un gage de sérieux, ouais, de professionnalisme.
Oui, ça, ça là-dessus, oui, sur le travail en équipe, ce genre de choses.
Mais après, c'est vrai qu'il faut quand même se vendre, du coup. Et autrement qu'avec le basket, c'est vrai que ça doit être compliqué.
Bah, oui, puis c'est surtout qu'on est, en haut pendant des années, et puis là, on se retrouve dans la vraie vie, avec les pieds bien sur terre, bien ancrés, et puis on n'est plus personne. Donc, je pense que la transition, elle est un peu violente et il y a beaucoup de sportifs qui le vivent très, très mal, ça.
Eh ben, tu nous en parleras, tu vas nous en parler après ce petit point que j'ai envie de faire avec toi sur ta dernière saison pro. Ce que tu as fait, justement, quel palmarès tu as pu avoir, ton meilleur souvenir, on veut tout savoir.
Bah, ma dernière saison pro, c'était à Lyon, en Ligue 1. Saison très, très compliquée. On a failli descendre en Ligue 2 alors qu'on venait juste de monter, mais une expérience humaine magnifique avec le club, avec l'entraîneur, avec les joueuses. J'ai eu la chance de jouer avec une fille qui s'appelle Audrey Sauré, qui était j'avais en poster dans ma chambre quand j'étais gosse.
Ah, ça c'est une belle histoire.
Ouais, et du coup quand l'entraîneur en la saison précédente m'a annoncé qu'elle signait chez nous et que j'allais jouer avec elle.
Ah, c'était Noël.
Ah ouais. Alors, j'ai eu beaucoup de pression, d'autant plus qu'on est sur le même poste.
Ah mince, ah ouais, d'accord.
Donc, je savais où était ma place, là-dessus, quand il n'y a pas de problème. Mais du coup, je me suis beaucoup préparée l'été. C'est l'été où je me suis le plus préparée physiquement.
Ah ouais, pour finir en beauté, en fait.
C'est ça, je suis arrivée en très grande forme parce que je ne voulais pas être ridicule à côté de cette grande joueuse, quoi.
Ah, c'est trop drôle, mais ça, c'est vraiment... Bah, tu clôtures bien ta carrière pro, parce que...
C'est ça, exactement. Bon, après, ça n'a pas toujours été évident, parce que le coin n'est pas toujours bien passé entre elle et moi. Mais après, voilà, j'ai quand même eu la chance, on va dire, de jouer avec une fille dont j'étais fan étant gosse. Quoi.
C'est une vraie chance, ça. Je suis bien d'accord avec toi, ça, c'est super. C'était quel niveau? Alors, vous avez failli descendre
On avait failli descendre, mais en étant en Ligue féminine, donc en Ligue 1. Comme le foot en Ligue 1.
Voilà. D'accord, ouais, donc très, très belle aventure une fois de plus. Un autre souvenir ou...
Un souvenir, je pense à... La première fois que j'ai entendu la Marseillaise avec le maillot français, quand j'étais en équipe de France cadette au championnat d'Europe à Turin. Voilà, ça c'était à la cérémonie d'ouverture. C'est vrai que ça c'est un vrai souvenir où on sait que ça y est, c'est officiel, on est là pour représenter notre pays. Il y a notre nom qui est marqué dans le dos, sur le maillot. Enfin bon, je pense que c'est des choses qui sont très très importantes.
C'est clair. Allez, ben, parce qu'on est là aussi pour parler des choses qui fâchent. Un mauvais souvenir en basket?
Ouais, un très mauvais souvenir à Montpellier où je ne me suis pas réveillée pour aller... On jouait à Clermont-Ferrand. J'avais une chambre seule à l'hôtel et je ne me suis pas réveillée le matin pour aller à l'entraînement. Et du coup, j'ai été privée de match. Sauf que mes parents m'avaient fait la surprise de venir me voir jouer. Donc mes parents ont débarqué au gymnase et j'étais dans les tribunes assises à côté d'eux, en fait.
Aïe, 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 ouais, cette histoire-là, ouais, je comprends, mauvais souvenir. J'aurais peut-être pas dû la poser, cette question.
Oh, c'est derrière moi maintenant.
C'est bon, ouais, c'est assimilé.
Voilà.
Oh, purée, d'accord. Justement, tu parlais de ce retour à la vie normale après ta carrière pro. Tu as dû te vendre pour trouver un travail, c'est ça. Comment ça s'est passé? Quel travail tu fais, sachant que le basket n'est pas tout à fait terminé?
Oui. Alors, donc, depuis 2013, je travaille à la mairie de Meylan. Donc, j'ai commencé au pôle jeunesse. Et là, maintenant, je m'occupe de dispositifs qui sont mis en place dans les écoles élémentaires. Donc, dans les 5 écoles élémentaires de Meylan pour de la médiation scolaire. Donc, je forme les élèves et je les accompagne sur le dispositif.
Ils ont de la chance.
Quoi, oui, quoi, je dis une bêtise. Non, je ne les forme pas. J'accompagne une association qui les forme et voilà, je suis le dispositif. Et après, on est sur un plan, le plan Sentinelle, qui ça concerne le harcèlement scolaire et pour le collège.
Est-ce qu'il y a du travail?
Il y a du boulot.
Ok, on fera une émission spéciale alors.
Exactement.
On fera une émission spéciale avec toi, il n'y a pas de souci. D'accord, donc du travail depuis 2013. Et le basket alors?
Bah, le basket, j'ai continué.
Ouais. Ah ouais, hein. On ne sait pas où il y a la place, mais elle a continué. Donc elle est mariée, 2 enfants, elle a un vrai travail. Je dis vrai travail parce que pour dire que c'est un 35 heures.
Donc, non, je travaille à mi-temps.
À mi-temps, tu fais.
Ouais.
Et donc, tu fais du basket à côté. Sur combien d'entraînements par...
Alors là, maintenant, je joue à Tulin depuis cette saison.
Yes.
Et dans le but d'être sur beaucoup moins de contraintes, on s'entraîne que 2 fois par semaine. Donc c'était de toute façon le deal. Et l'avantage de pouvoir aussi... ne pas aller à l'entraînement si une de mes filles est malade ou si j'ai un souci, on va dire, en rapport avec mon organisation familiale. Chose qui n'était pas du tout envisageable avant.
Bien sûr.
Ouais. J'ai d'ailleurs le souvenir à la tronche Meylan, ma fille a 42 fièvres, je suis chez le médecin avec ma mère. Et je dois laisser ma fille parce que j'ai entraînement.
Ah ouais.
Et je pars à l'entraînement en laissant ma gosse, mais vraiment au plus bas, dans les bras de ma mère. Et quand je suis arrivée à l'entraînement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là?
Ouais.
Ma place n'est pas là, la place est... Donc j'ai jamais loupé un seul entraînement quand j'étais en National 1 par rapport à ma fille, jamais.
Incroyable ça, donc, mais de toute façon tu en parlais, un sacrifice pour arriver au plus haut niveau et...
Exactement, après j'aurais pu me permettre honnêtement de louper un entraînement de temps en temps, mais après j'étais la seule maman de l'équipe, donc j'avais peur que ce soit pas forcément toujours bien compris aussi.
Oui.
Et puis c'était ma manière de m'engager. C'est,
oui, puis de dire que voilà, on peut être maman et on peut arriver.
Exactement. Et puis on peut s'engager à 100%. Ouais.
Ah oui, parce que là.
C'est une question d'organisation. Après, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui étaient très présents autour de nous aussi.
D'accord. Ah oui, tu l'as dit, ça aussi, important l'entourage. Ah oui, bien sûr.
Complètement, ouais.
Et tu. J'avais une question, je ne m'en rappelle plus, mais si je le fais à chaque fois, t'inquiète pas, elle va revenir. oui, du coup, ça, comment tu fais pour gérer tout ça? Entraînement, enfant, travail, match les week-ends, parce que voilà, je pense que tu ne fais pas que des entraînements.
Voilà, c'est ça. Bah, faut être bien organisé, en fait. Donc, effectivement, il y a des jours, les jours où j'ai entraînement. Bon, maintenant que je travaille à mi-temps, j'ai quand même un peu plus de temps pour profiter de mes filles. Et choix que je ne regrette absolument pas, d'ailleurs. Mais sinon, il y a certaines journées, je me lève à 7h le matin et je termine ma journée le soir. Je rentre, c'est 23h30.
Ouais, donc une belle journée.
Voilà, donc effectivement, c'est pas toujours évident. Ma fille, ma grande qui va avoir 5 ans, je l'emmène souvent le vendredi soir à l'entraînement avec moi.
C'est bien
ça. Qui a pas école le
lendemain. Ouais, exactement.
Donc du coup, elle est contente, elle voit les copines. On prend un McDo en rentrant, elle est super contente.
Ah bah voilà, ça y est.
Voilà, et puis le dimanche, elle, de temps en temps, quoi, les matchs à domicile, je la prends avec moi aussi. Et elle a déjà fait plusieurs fois l'échauffement de match avec nous.
Fais gaffe, elle va finir par faire du basket.
Non, du rugby normalement.
Arrête.
Ouais, elle aime bien.
Elle a pris le côté grand-père du coup.
Ouais, pour le moment, elle est tankée, donc elle a le physique pour.
Eh ben voilà, rugby, alors peut-être on garde le nom en tête alors. Un petit conseil à donner donc, aux jeunes qui veulent se lancer dans le basket à fond, on le disait en début d'émission, on leur fait une piqûre de rappel.
Bah voilà, le conseil c'est vraiment le travail. Il faut être hyper hyper assidu, il faut avoir un mental quand même, un mental d'acier. Hein. Il ne faut pas avoir peur d'écraser les autres. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça passe ou ça casse après avec certaines personnes, mais il faut vraiment voilà, avoir cet instinct de compétiteur et de gagnant. C'est
ouais,
très important.
Il faut être présent, quoi, disons, parce que sinon on se fait marcher dessus. C'est un peu ça que tu essayes.
Oui, voilà, il faut avoir quand même un minimum de caractère.
Ouais, de charisme aussi.
C'est ça, un minimum de caractère, de charisme. Et puis je pense qu'il faut être compétiteur. Quoi. On ne peut pas avoir juste envie de participer. Quoi, moi, ça, je ne comprends pas ça.
C'est...
Les gens qui, par exemple, jouent juste pour participer. Ma fille a 5 ans, elle ne gagne jamais une partie de Memory contre moi. C'est hors de question.
Mais c'est une bonne mère, ok.
Mais je suis une bonne mère.
Mais non, mais alors justement, on va parler encore juste pour terminer là-dessus, parce que je sais que tu dois partir à 20h pile. L'esprit de compétition. Tu as été dernièrement à la soirée organisée par le Dauphiné Libéré, qui c'était l'élection du joueur préféré. Des lecteurs du Dauphiné Libéré, 10 000 votes et il y avait les 9 finalistes présents cette soirée. Donc c'est un champion de quad qui a gagné, on l'aura d'ailleurs à l'antenne un de ces jours, c'est même sûr, Alexandre Giroux. Voilà, je ne me suis pas trompé. S'il nous entend, tu es le bienvenu. toi, tu es arrivé là, tu étais parmi les 9 finalistes et dans ton esprit de compétition, tu l'as dit à personne, mais tu ne voulais pas être la 9e. On annonçait les... Voilà, toute la soirée, on a annoncé le classement et Charline, elle ne voulait pas être 9e, donc elle restait dans son coin, mais elle avait peur. Tu as fini combien finalement?
Non, j'ai fini 5e.
Voilà, donc tu es contente. Seule dame en plus dans
ouais.
le top 10.
Ouais, ouais. Non, mais j'étais contente parce que, voilà, comme tu dis, mon côté compétition veut que je ne termine absolument pas dernière. Mais en plus, je m'étais fixé l'objectif du top 5. Voilà.
Eh bah,
histoire de faire les choses.
Son chiffre, je le rappelle, hein, le voilà. Maillot, tout ça. Enfin, quand c'est elle ça. Rentre dedans, qu'elle n'est pas enceinte.
Voilà, c'est ça.
Charline Fréminet, Servage, je crois que c'est la totalité.
C'est ça.
Merci beaucoup pour ton temps précieux, parce que voilà, maintenant on sait qu'il est précieux. Vous allez pouvoir écouter cette émission en podcast sur le site radio-rks.fr. On aura d'autres champions, championnes, d'autres héroïnes comme Charline qui sont joueuses, mamans, femmes. C'est hallucinant. Merci beaucoup, Charline Fréminet, Servage.
Eh bien, écoute, merci à toi. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à être là ce soir, donc merci beaucoup.
Merci. Nous, on enchaîne avec Africa. Toto sur RKS. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain parce que je serai demain à l'antenne 7h-10h pour Good Morning Grenoble.
the drums are going tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.